Radio Okapi.
Le journal Babel Pongo Massimango.
Okapi.
Bonjour, dans ce journal nous serons au Nord Kivu. Les nombres de groupes armés qui se rendent, qui déposent les armes se multiplient. Pourtant, 12 autres groupes opérant dans les territoires de Massissi et Rutshuru continuent à multiplier de conditions. Nous nous rendons aussi dans ce journal au Kasaï oriental pour parler de la flambée de la mortalité infantile due au paludisme grave dans tous les districts sanitaires de cette province. 80 enfants sont morts hier, rien que la semaine dernière, pardon, dans les districts sanitaires de Sankuru. Et puis 34 prisonniers du camp de détention d'Ossio en province orientale ont été libérés hier. Ces détenus ont bénéficié de l'ordonnance présidentielle portant mesures collectives de grâce. Sachez d'abord que 3 Kuluna ont été tués par balle la nuit dernière dans les communes de Bumbu, Selemba, Wengiri, Ngiri, ici à Kinshasa. Sur les 3 victimes, Radio Kapi a pu identifier le corps d'un gangster de près de 20 ans, abattu à 3h du matin chez ses parents au numéro 11 de l'avenue Kwilu, dans la commune de Bumbu. Selon le rapport dressé par le chef du quartier Ubangi à l'autorité municipale de Bumbu, la victime était réputée pour ses grands forfaits et c'est avec un grand soulagement que la population de cette avenue a accueilli cette opération qu'elle attribue à la police. La population affirme aussi soutenir les actions de la police tendant à éradiquer le phénomène Kuluna à Kinshasa. Le chef de quartier Epam atteste dans le récit. Il est au micro de Jeff Ngoy.
Il y a eu assassinat d'un bandit qu'on a abattu la nuit vers 3h du matin.
Qui l'ont abattu?
Bon, c'était des bandes non identifiées.
Bakuluna suivant au Soukanabamo.
Il a eu des balles dans le front, au niveau de l'abdomen, dans le dos, et 3 coups simplement. Lui aussi c'est un civique. Les hommes sont arrivés, ils sont entrés dans la maison, ils l'ont cherché d'autres, c'était là tranquille. Il dit qu'il voulait voir celui-là. Il était identifié. On l'a sorti et on a tiré sur lui.
Maintenant vous l'amenez où?
On l'amène à l'hôpital, à la morgue.
Direction le Nord Kivu, 12 groupes armés opérant dans les territoires de Massissi et Rutshuru se disent prêts pour le désarmement. Ils sollicitent toutefois des conditions favorables pour encourager des combattants qui optent pour le désarmement volontaire. Les représentants de ces groupes armés ont exprimé cette préoccupation hier au ministre de l'Intérieur et Décentralisation, Richard Mouyesh, qui est en ce jour au Nord Kivu. Et c'était au cours des discussions sur le processus de pacification de cette province. C'est Famagourou.
Les représentants de ces groupes armés ont promis leur engagement dans les processus de désarmement au ministre de l'Intérieur. Selon Kabasha Ephrem, porte-parole du regroupement des groupes armés Mouvement d'action pour les changements MAC, des mesures efficaces d'accompagnement et d'encadrement doivent toutefois être mises en place pour encourager d'autres combattants à désarmer.
Certains éléments sont déjà abouremana dans le cadre des regroupements. Donc vous voyez, nous avions déjà commencé ce processus-là de paix. Donc c'est au gouvernement maintenant de montrer sa bonne volonté de ne plus donner des promesses mensongeuses. Ou bien, ceux qui seront démobilisés, ils arrivent là, il n'y en a pas un encadrement. Ces enfants risqueront encore de se rebeller et rentrer encore dans la brousse.
Le gouverneur Julien Paluku rassure pour sa part que le gouvernement travaille déjà pour mettre en place des structures convenables en vue d'accueillir les ex-combattants. Notons que le MPA Nyatura, les FDIPC, la FAC, l'APCLS étaient parmi les groupes armés reçus ce lundi par le ministre Richard Mouyesh. Goma, Sifamaguru, Radio Okapi.
Le chef d'état-major général des FRDC a effectué hier sa toute première visite en les zones libérées par les FRDC au Nord Kivu, s'adressant au militaire à l'étape de la base de Rumangabo au nord de Goma. Il a mis en garde les soldats contre toute exaction sur les civils. Pour Didier Toumba, aucun acte d'indiscipline ne sera toléré. Un reportage d'Abdelouamine.
C'est sous une pluie battante que le chef d'état-major général des FARDC est arrivé à Rumangabo. C'est après avoir visité la colline de Kamaro, près de Kibumba, l'une des anciennes positions du M23. À Rumangabo, Didier Etumba, entouré de quelques hauts cadres du commandement militaire, a félicité les prouesses des FARDC. Vous êtes des vaillants et patriotes soldats et vous méritez nos sincères félicitations, a-t-il martelé. Par la même occasion, le chef d'état-major général a annoncé d'un ton ferme aux hommes des troupes des décisions coercitives en cas d'indiscipline. Didier Etumba. Il faut respecter les droits de l'homme. Il faut respecter la dignité de la femme. Celui qui sera attrapé sera jugé. Parmi vous, il y a ceux qui ne
sont pas
jugés. Après Rumangabo, la délégation s'est rendue à Kaunga, environ 6 km de Kiwanja, un ancien poste stratégique du M23. C'est ici que les rebelles ont opposé une forte résistance aux forces loyalistes, a affirmé le chef des opérations, le général Bauma Ambamba. Et c'est dans la zone de Kamulima, à 3 km de Kiwanja, sur l'axe Ishasha, que Didier est Tumba a bouclé sa visite dans les Rutshuru. À cet endroit, l'un des soldats de la brigade d'intervention de la MONUSCO a été tué lors des combats. Goma, Gabriel Wamenya, Radio Kapi.
En remise des cartes biométriques aux policiers actifs, l'opération a été lancée hier à Mbandaka pour la province de l'Équateur. Elle s'inscrit dans le cadre de la réforme de la police nationale congolaise et particulièrement dans son volet modernisation de la gestion des ressources humaines. Cette cérémonie a été une occasion pour l'autorité provinciale de demander le renforcement des effectifs des policiers dans le coin les plus reculés. D'éditer avec Henri Lobondo.
Ces cartes biométriques ne sont remises qu'aux policiers actifs déclarés éligibles après analyse et traitement de leur dossier au Centre de coordination et traitement des informations à Kinshasa. Cette opération est la résultante de la collecte des données effectuées précédemment et qui consistait à recueillir des données professionnelles de chaque policier. Le général Patrick Sabiti, coordonnateur national de la réforme de la police nationale congolaise, décrit cette carte biométrique.
Il y a des mesures de sécurité qu'on ne peut voir que soit par un équipement spécifique. Aussi, une particularité de cette carte, on y a incorporé une puce électronique. Et dans cette puce électronique, nous avons toutes les informations du policier.
Cette opération de remise des cartes biométriques va se poursuivre dans les jours à venir pour les policiers retardataires. Les bénéficiaires se sont dit satisfaits. Colonel Inox.
Les impressions sont celles des joies et celles d'encouragement. C'est comme si quelqu'un qui passait au test des examens d'état, mes impressions sont bonnes.
Le gouverneur intérimaire Sébastien Impeto, qui a présidé cette cérémonie, a saisi cette opportunité pour demander aux autorités de la police de renforcer les effectifs des policiers à l'intérieur où, dans certains territoires, on compte à peine 4 éléments seulement. Henri Lobondo-Bokelou, Mbandaka, Radio Kapi.
Santé, flambée de la mortalité infantile due au paludisme grave dans tous les districts sanitaires du Kassai oriental. 80 enfants sont morts rien que la semaine dernière dans les districts sanitaires du Sankuru. Une situation attribuée au fait que seuls 31% de la population se fait soigner dans des centres de santé. Comme solution, le médecin inspecteur provincial affirme que tout est mis en œuvre pour amener la population à fréquenter les centres de santé pour une bonne prise en charge. Docteur Kazadi Wampoy, au micro de Chris Moukanz.
Nous venons d'analyser les données cette semaine. La mortalité des enfants due au paludisme grave, c'est-à-dire paludisme compliqué, continue toujours à grimper. Pour le district, par exemple, de Tshilingi, nous avons eu plus de 20 enfants, surtout ce sont eux qui meurent le plus, qui sont morts dans le district. Il y a dans le district de Kabinda, il y a une quinzaine d'enfants qui sont morts. Au Sankuru, sans compter la zone de santé de Mendjadi qui déclare toujours beaucoup de cas, nous sommes dans les 80 cas d'enfants qui meurent. Tout ça, c'est surtout la qualité des prises en charge. Parce que le paludisme grave peut être pris en charge à l'hôpital général de référence où il y a un protocole bien défini, bien testé, qu'on met en place. Mais souvent, les enfants sont retenus dans les petits centres où on fait n'importe quoi et la mortalité est toujours très élevée. Et cette mortalité, c'est la mortalité intra-hospitalière, c'est-à-dire qu'ils meurent dans les structures de soins, mais ceux qui meurent en dehors des structures de soins sont encore plus graves.
Nous vous en parlons depuis ce matin. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale des toilettes. Dans la ville de Matadi, au Bas-Congo, l'accès aux toilettes est un véritable problème. Le relief rocailleux de la ville ne permet pas aux habitants de se creuser des installations sanitaires dignes. Les habitants utilisent donc tous les moyens pour se soulager. Guy Roger Nyampala décrit la situation.
C'est dans les zones où il y a une forte concentration de la population que la question d'accès aux toilettes pose problème. Il s'agit de tous les quartiers qui se trouvent dans les communes de Vouzi et de Nzanza. Dans ces coins de la ville de Matadi, on observe souvent des scènes incroyables. Dans la plupart des cas, les gens se soulagent dans des sachets et jettent ses excréments, soit dans les rigoles, sur la chaussée et voire même sur les toitures des maisons de leurs voisins. Pendant la saison sèche, comme pendant la saison pluvieuse, certains quartiers dégagent des odeurs insupportables. Face à ce manque criant de toilettes, la mairie de Matadi, en collaboration avec la Banque mondiale et différentes structures, s'emploie depuis plusieurs années à construire des latrines publiques qui aident les habitants de ces zones. À ce jour, on compte plus d'une trentaine de latrines publiques à travers la ville. 9 autres latrines construites par l'ONG Médecins d'Afrique seront inaugurées dans les prochains jours. Il se pose cependant un problème de la gestion de ces toilettes par la communauté. Parfois, l'eau manque ou les tanks sont souvent rempli. La société civile de Matadi estime qu'il faut un grand investissement pour résoudre cette problématique des toilettes dans la ville de Matadi. Guy Roger Nyampala, Matadi, Radio Kapi.
34 prisonniers du camp de détention d'Ossio à 17 km de Kisangani ont été libérés hier. Ces détenus ont bénéficié de l'ordonnance présidentielle du 23 octobre portant mesures collectives de grâce. Cette activité a connu la présence du vice-gouverneur de province, des autorités judiciaires ainsi que de la MONUSCO. Jacques Moukonkole.
L'unité appui à la justice de la MONUSCO a fourni une assistance logistique qui a permis au vice-gouverneur des provinces et aux autorités judiciaires de se rendre à Ossio afin de matérialiser l'ordonnance présidentielle du 23 octobre. Des 94 détenus de cette prison, seuls 34, tous des civils, ont été libérés. Ceux-ci ont été déclarés éligibles sur les 60 dossiers ayant fait l'objet d'une étude technique jeudi dernier par le parquet général. D'autres ont bénéficié plutôt de l'absolution de la peine, soit deux détenus dont la peine est réduite de 3 ans, 10 détenus bénéficient d'une réduction de peine de 5 ans, un détenu voit sa peine de mort commuée à la servitude pénale à perpétuité. 46 autres n'ont pas pu bénéficier de cette grâce collective pour gravité de peine. Rappelons que samedi dernier, 44 autres détenus de la prison centrale de Kisangani ont été graciés. Tous ont reçu du vice-gouverneur leur certificat de libération. Pascal Mombi a aussi promis le soutien financier du gouvernement provincial pour le retour des détenus libérés dans leur milieu éloigné de Kisangani. Jacques Moukonkole, Kisangani. Radio Okapi.
Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous qui l'avez suivi.
Okapi, Okapi, Radio Okapi.